Vous écoutez France Culture.
Bonsoir. Du jour au lendemain, avec Yannick Hanel, qui publie Yann Karski, roman, chez Gallimard. Ces années de silence que j'ai découvert les livres de Franz Kafka. Tout de suite, je m'en suis senti le frère. Joseph K. et moi, on avait les mêmes initiales. J.K., les initiales de l'exil. Voilà quelqu'un qui m'a écouté. Les oreilles de Kafka n'étaient pas bouchées. Au contraire, personne n'a eu les oreilles plus ouvertes que lui. Au cours de ma vie, j'ai beaucoup plus parlé avec Kafka qu'avec n'importe quel autre homme soi-disant vivant. C'est sans doute parce que lui aussi avait été un messager. Il arrive que les messagers, à force de rechercher celui qui sera capable d'écouter leur message, se perdent et abordent des régions inconnues. Ainsi découvrent-ils des vérités qui auraient dû rester dans l'ombre. Ils en conçoivent une inquiétude qui leur ferme les portes de la compréhension, mais leur ouvre d'autres portes, plus obscures et même infinies. Quelques jours encore, Yannick Hanel, vous êtes à Rome, pensionnaire de la Villa Médicis.
Oui.
C'était un beau rêve qui prend fin.
Oui, c'est un étrange rêve suspendu. Oui. Écrire pendant un an dans un des lieux les plus mystérieux d'Italie. On a l'impression d'être effectivement à toutes les époques à la fois. Et bon, c'est une vie... qui est une parenthèse enchantée.
Mmh. Certains pensionnaires prétendent qu'à Rome, on ne peut rien faire, on ne peut pas travailler.
Ben moi, j'ai beaucoup travaillé, je n'ai jamais autant travaillé. Je ne sais pas. Voilà. C'est un lieu, effectivement, qui peut stériliser par sa beauté froide et justement par le passage du temps. Mais comme j'y travaillais sur Virgile, j'étais comblé.
Maintenant, cette parenthèse se referme et les choses sérieuses vont commencer, vous reprendre, je ne sais pas.
Oui.
Parce qu'il y a du travail à Paris. Il y a votre revue, Ligne de risque. Il est vrai qu'elle ne paraît plus qu'une fois par an, je crois.
Alors oui, à peu près.
Elle paraissait deux fois.
Oui.
Dans le passé. Le dernier numéro date de mars dernier, déjà, le numéro 24. Il s'intitule « La sagesse qui vient ».
Oui. C'était un numéro qui était consacré au gnostique. Ça a fait suite à la publication... par la Pléiade, des écrits qui ont été retrouvés en 1945 à Nag Hammadi. Et au fond, on a essayé, mes amis et moi, de commencer modestement à penser les écrits gnostiques comme on peut penser, comme on peut essayer de penser des écrits de grands philosophes. Je pense qu'il faudra des siècles, au fond, pour tirer des écrits gnostiques et des évangiles gnostiques la pensée qu'il recèle.
Un seul numéro de revue ne suffit pas.
Non, C'est le début.
Et le suivant est en préparation ?
Le suivant est en préparation, je suis sûr, il sera consacré à Rabbi Naaman de Breslav, qui est un autre versant de la grande pensée, un peu, je dirais, oubliée dans l'Europe occidentale des Lumières, puisque ça se passe au XVIIIe siècle. Donc on travaille beaucoup, François Méronis et moi, sur la pensée juive actuellement.
La revue Ligne de risque ne vous prend pas tout votre temps, parce qu'il y a les livres aussi, vos livres que vous écrivez et que vous publiez pour la plupart. C'est le cas encore de Yann Karski, le tout dernier, dans la collection L'Infini que dirige Philippe Solers chez Gallimard. Alors il y a des livres collectifs comme Prélude à la délivrance, avec François Méronis, que vous citiez, un livre qui est très récent, ou bien des romans, comme Évoluer parmi les avalanches, Introduction à la mort française, dont vous étiez venu parler ici, dans cette émission, et le tout dernier, il y a 2 ans, Cercle, un livre qui a fait beaucoup de bruit, et qui a obtenu, je crois, le prix de décembre, en 2007.
Oui.
Yann Karski, on ne sait pas encore quel prix vous allez recevoir, mais il y en a déjà un, tout de même, le tout premier qui est décerné pour la rentrée littéraire en France, c'est le prix de la FNAC.
Oui.
Voilà. C'est un prix important parce que les lecteurs y ont leur mot à dire. Hein. Voilà. Alors, écrire aujourd'hui, au XXIe siècle, ce n'est pas évident. Hein, beaucoup se demandent même s'il faut continuer, poursuivre. Pour vous, le mot-clé qui ouvre les portes, peut-être de la réponse, et en tout cas de votre travail, c'est le sans pourquoi.
Oui, c'est une expression que j'ai trouvée dans Si c'est un homme de Primo Levi. À un moment, Primo Levi raconte que à Auschwitz, il voit depuis l'intérieur d'un baraquement, il voit une congère, il a très soif, et par la fenêtre, il veut casser la congère pour la sucer. Et passe à ce moment-là un capot qui lui dit en allemand que c'est interdit. Et Primo Levi demande pourquoi, et le capot lui dit « Hier ist kein warum », ici, il n'y a pas de pourquoi. Et quelques jours après avoir lu ce passage, je suis tombé sur un texte d'Angelus Silesius, qui dans Le Pèlerin chérubinique dit qu'au fond, c'est une sorte de poème, au fond c'est une méditation poétique, il dit « La rose est sans pourquoi ». C'est très célèbre, Heidegger a commenté abondamment ce vers, « La rose est sans pourquoi ». Et je trouvais qu'entre la rose qui est sans pourquoi, et le sans pourquoi prononcé à Auschwitz, c'est-à-dire d'un côté la gratuité même, la poésie, qui est sans pourquoi, sans justification, sans raison, et la mise à mort, la barbarie, qui est également sans raison, le mal, au fond, se tenait dans cette espèce d'entre-deux terrible, la possibilité du langage, et la possibilité, effectivement, comme vous dites, d'écrire et de continuer à interroger l'écriture, et le monde à travers l'écriture.
Donc, deux expériences qui se rejoignent aujourd'hui.
Oui.
Hein? L'apparition possible à chaque instant de la poésie, et en même temps, l'assignation de chaque corps à la destruction.
Exactement. Oui. Au fond, je me dis que la littérature, enfin celle qui m'anime, celle qui traverse le temps, qui traverse les corps, qui essaye d'écrire, au fond, la littérature est animée par cette double postulation, celle du sans pourquoi. Je pense qu'une littérature qui ne se pose pas la question du mal, au fond, est vouée à une sorte d'insignifiance.
Mmh.
Et se posant la question du mal, cette littérature peut trouver, du fond des ténèbres, une sorte de lueur, au fond. C'est cette lueur qui m'intéresse. Cette lueur de poésie, disons, qui ne peut exister qu'à condition d'avoir interrogé le sans pourquoi.
Il y a donc une rencontre possible de l'irreprésentable.
Oui, ça c'est une, Enfin, il y a une rencontre, effectivement. La question de l'irreprésentable, elle se pose à chaque instant. Et c'est vrai qu'au fond, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est ce qui ne peut pas se représenter. C'est-à-dire, je dirais, d'un côté, la jouissance, et de l'autre côté, le mal. Donc, écrire, c'est rencontrer cet irreprésentable. C'est presque témoigner pour cet irreprésentable. Enfin, témoigner pour ou contre, c'est pas la question, mais c'est témoigner de cette chose-là.
Devenir le témoin de l'irreprésentable.
En un sens, oui.
Et j'imagine que vous y avez songé en écrivant Yann Karski.
Bah, bien sûr, là, en rencontrant, entre guillemets, Yann Karski dans le film de Lanzmann, puisqu'il est l'un des témoins de Shoah de Lanzmann, j'ai vu quelqu'un qui était évidemment animé par une préoccupation qui, étrangement, de manière, je dis ça en toute modestie, était liée à celle qui, je pense, anime les artistes, les poètes, les philosophes tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que je sentais que, malgré la distance, cet homme s'était posé des questions qui continuent à se poser aujourd'hui dans le rapport qu'on peut avoir avec la parole. Effectivement, la question de l'irreprésentable. Comment transmettre quelque chose qu'on ne peut pas transmettre ?
J'ai pris soin de le souligner en annonçant votre livre, Yannick Hanel, Yann Karski, roman, parce que le mot roman figure sur la couverture du livre qui est publié dans l'infini chez Gallimard. Est-ce vraiment d'un roman qu'il s'agit ?
Pour moi, c'est un roman, mais c'est vrai que c'est un roman qui, à sa manière particulière, essaye d'élargir le cadre du roman, puisque je l'ai construit selon trois paliers, et les deux premiers paliers de ce texte sont ressortis sous genre qu'on pourrait appeler documentaire. Et ce sont deux paliers documentaires qui m'ont permis d'oser écrire une fiction sur cette question. Mais au fond, même dans les deux parties documentaires où je ne fais que redire la parole de Karski, celle qu'il a prononcée devant les caméras de Lanzmann, et redire son écriture d'un livre qu'il a publié en 1944, même dans ces deux parties, pour moi, il y a déjà un geste littéraire. C'est-à-dire que les 15 pages qui ouvrent Yann Karski, qui ouvrent ce livre, qui sont une description presque phénoménologique, je dirais, des 40 minutes d'entretien de Karski dans Shoah, s'attachent à décrire son corps, à décrire ses mains, sa voix qui se brise.
Essaye de parler.
La manière dont il essaye de parler, la manière dont il n'arrive pas à occuper la place qu'on lui assigne, qui est celle de témoin. Je pense que c'est un regard qui est le mien, que j'assume, un regard de spectateur. Et en tant que tel, c'est déjà un geste de littérature. Donc pour moi, la question de savoir si parce qu'il y a des choses que je n'ai pas inventées, la question de savoir si pour cette raison, c'est plutôt, je dirais, un travail d'historien que d'écrivain, cette question ne se pose pas pour moi. C'est évidemment un travail d'écrivain, et pas seulement dans les parties fictives.
Écrivain qui travaille trois formes différentes. Hein.
Oui.
La première, c'est la description de ce qu'il voit dans le film de Lanzmann. La deuxième, c'est le résumé du livre de...
Oui.
Bon, et description et résumé, analyse. Et la troisième, c'est ce que vous appelez la fiction, mais qui est en fait le passage du « il » au « je ».
Exactement. Ouais.
C'est-à-dire que Yannick devient Yann.
C'est vrai, c'est très juste. Mais c'est par scrupule, au fond, que j'en suis passé par ce système de paliers. Au fond, je me disais que l'histoire de Yann Karski, quand j'en ai pris connaissance, enfin, elle est dans les livres d'histoire, au fond, elle est aussi recueillie par Claude Lanzmann. Cette histoire aurait pu donner lieu à un roman un peu trop beau, un peu trop romanesque. Et je me disais qu'au fond, la grande question qui m'animait, dont on a parlé tout à l'heure, celle du passage du témoin et de la légitimité d'écrire sur cette question au début du XXIe siècle, tout ça nécessitait un grand respect de ce qui a été dit et écrit. Donc en fait, pour en arriver à imaginer ce qu'il y avait dans la tête et dans la vie de Jan Karski après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on n'a plus vraiment de documents à ce moment-là, on ne sait pas de quelle nature a été l'exil et le silence de Karski. Eh bien, pour en arriver là, j'ai préféré effectivement écrire 100 pages de documentaire, de sorte que quand on lit ce livre, on a tout ce qu'a dit Karski, tout ce qu'il a écrit. Et après, moi, je propose au lecteur une hypothèse, une fiction intuitive sur la seconde partie de sa vie.
Mais la description, l'analyse, le résumé participent de l'art du romancier, non ?
Ah, j'en suis persuadé, oui. Il y a des pages dans Proust, il y a des pages dans Stern qui sont des accélérations narratives, qui sont de purs résumés. Et surtout, pour me donner du courage, au fond, dans la deuxième partie de ce livre, qui est un pur résumé d'un très gros livre de Jan Karski, j'ai beaucoup pensé à Borges, au fond. J'ai beaucoup relu Borges. Je me suis amusé à faire une sorte de résumé critique d'un livre déjà existant. Et ça formait dans mon esprit un triptyque, enfin, un dispositif, au fond, presque artistique. La question que je me posais était très, très simple. C'est que peut-on dire d'un homme ? Comment en parler ? Il m'a semblé qu'en parler, surtout d'un homme comme lui, très singulier, il m'a semblé qu'en parler de manière univoque, était une forme de... C'était pas très honnête, au fond. D'autant plus que lui-même avait raconté une partie de sa vie. Donc je préférais rapporter ce qu'il en avait dit pour après revenir dans une sorte de boucle sur les séquences principales de sa vie, notamment la manière dont il a traversé par deux fois le ghetto de Varsovie.
C'est son nom que vous avez choisi pour intituler ce livre.
Oui.
Donc une identité. Alors que les trois formes que vous utilisez montre qu'il y a trois facettes possibles aussi, trois éclairages.
Exactement, mais pour moi, la question c'était de savoir, c'est pour ça que j'ai volontairement nommé ce livre par le nom de cet homme, Jan Karski. Ce livre c'est Jan Karski. Jan Karski devient un livre.
Un nom propre ou un nom commun ?
Non, un nom propre, enfin le plus beau des noms propres pour moi. Ouais. Pour moi, donc, Jan Karski, au fond, ne peut être désigné, ne peut être nommé, ne peut être dit qu'à travers, effectivement, la diffraction, la fragmentation de trois points de vue. Et ne peut être dit, au fond, qu'à travers la vérité des faits, mais aussi la vérité de la fiction. Parce qu'au fond, à la réponse à la question « que peut-on dire d'un homme ?», au fond, enfin, répondre à cette question, c'est aussi en passer par l'imagination. C'est se demander, au fond, c'est presque parfois prendre sa place par l'imagination.
L'éclairage est donné, il me semble, par la citation que vous avez placée en exergue de Paul Celan. Paul Celan, qu'on a déjà rencontré dans votre livre précédent, Cercle,
oui.
Qui témoigne pour le témoin ?
Oui. Pour moi, c'est la grande question qui traverse tout le XXe siècle. C'est une question sur laquelle Maurice Blanchot a médité. Il n'est pas le seul.
Mais... Blanchot, une vieille connaissance.
Oui. C'est vrai. Mais à cette question que j'ai mis effectivement en exergue de ce livre, c'est une question, c'est un vers célèbre de Celan. Mais j'ai essayé de confronter un désir d'écrire ce livre et aussi toute l'impossibilité qu'il y a. Qui est contenu dans le désir d'écrire ce livre. J'ai essayé de confronter ça à cette question, et je me dis qu'au fond, après avoir passé plusieurs années à l'écrire, la réponse très simple, c'est la littérature. Au fond, qui témoigne pour le témoin ? C'est pas spécialement moi, ni quelqu'un d'autre, c'est pas seulement celui qui a tenté d'écrire ce livre, c'est la parole elle-même, au fond. C'est la parole qui vient, ou cette expérience qui se transmet à travers le temps, et qu'on peut appeler le langage, la poésie ou la littérature. Je me suis dit, effectivement, en essayant d'écrire quelque chose qui a à voir avec la Shoah, qui n'est pas explicitement sur la Shoah, mais qui a à voir, je me suis dit qu'au fond, au début du XXe siècle, on était peut-être à une autre époque de la tentative pour parler de la Shoah. Shoah de Lanzmann, c'est il y a 30 ans, et... pour moi, ça n'a pas été facile, effectivement, de m'y mettre, enfin, de me dire qu'au fond, je pouvais, que j'avais le droit, Personne ne nous donne ce droit-là, mais je l'ai pris en me disant que, à travers le personnage de Jan Karski, à travers cette personne qui a tenté d'alerter les alliés sur l'extermination des Juifs dès 1942 et qui n'a pas été écoutée, à travers cet homme qui n'est ni un exécuteur, ni une victime, ni même un témoin, pour reprendre les trois acceptions de Raoul Hilberg, mais qui était un messager qui est devenu malgré lui un témoin, à travers cette figure nouvelle au fond, ou très peu questionnée jusqu'à présent, on pouvait se permettre d'écrire quelque chose d'un peu intègre sur cette question au début du XXIe siècle.
À Karski, vous faites lire, le passage que j'ai lu pour commencer l'émission le montre bien, vous faites lire Kafka, peut-être qu'il l'a lu d'ailleurs, même peut-être, certainement. Oui, oui. Voilà, Kafka, c'est-à-dire celui qui écoute. Alors que le témoin, pour Karski, c'est manifestement celui qui voit, celui qui a vu.
Oui, ce qu'il est très frappant dans les 40 minutes d'entretien de Jan Karski avec Claude Lanzmann, c'est que ce qu'il dit de sa visite, entre guillemets, au ghetto de Varsovie, il le dit au présent. Il le revit, c'est ce qui rend cette expérience pour lui insupportable, même 35 ans après, il la revit. Mmh. D'ailleurs, il commence par dire « non, je ne retourne pas », et il retourne. Parler, pour lui, c'est retourner. Et de fait, il décrit ce qu'il a vu. Mmh. Il a été vraiment un témoin.
Sous la conduite de deux leaders juifs qui l'ont emmené dans le ghetto.
Exactement, afin de lui faire...
Pour qu'il voie de ses propres yeux.
Pour qu'il voie et pour lui transmettre le message du ghetto de Varsovie afin d'aller alerter, comme ils l'ont dit eux-mêmes, la conscience du monde, pour aller dire à Washington et à Londres ce qu'il avait vu.
D'ailleurs, c'est à partir du moment où il a vu qu'il se met à parler au présent.
C'est vrai que chez lui, ça coïncide au fond. Parler, c'est voir dans un présent permanent. Et au fond, effectivement, cet homme a vu quelque chose qu'il est peut-être l'un des premiers à voir à la moitié de l'année 1942. Et c'est quelque chose qui, comme on va refuser de le croire, comme on va faire croire qu'on refuse de le croire, parce que cette surdité est un peu organisée aussi, j'ai pensé tout de suite, en voyant Karski parler à Claude Lanzmann, j'ai pensé que cet homme n'en finissait pas de se redire au présent le message, et qu'au fond, pendant 35 ans, ça c'était mon intuition, enfin de romancier, je me suis dit que, bien après la Seconde Guerre mondiale, cet homme, sans doute, qui n'avait plus trouvé le sommeil, comme un personnage de Kafka, justement, vivant dans une mémoire qui est celle de l'insomnie, cet homme se récitait forcément ce message que les Juifs du ghetto de Varsovie lui avaient transmis, se le récitait chaque nuit. C'est ça qui m'a décidé à franchir le pas et à écrire, grâce à la lecture continue de Kafka, justement, qui m'a décidé à essayer d'entrer dans cette immense nuit blanche, enfin, dans ces ténèbres dans lesquelles ce messager s'est forcément débattu, au moins pendant 35 ans.
Mmh. Il cherche à se soustraire à ce qu'il a vu, évidemment. Hein?
Oui,
parce qu'il pense que c'était pas un monde, c'était pas l'humanité.
Oui. Karski ne sait pas comment désigner ce qu'il a vu. Et en cela, l'expérience qu'il fait, et cette expérience du défaut de langage, est extrêmement émouvante. Mais plus que ça, elle dit une certaine vérité de l'impossibilité du langage concernant... ce massacre qui n'avait pas d'équivalent, au fond. Karski le dit très bien. Karski est un Polonais patriote, très catholique, enfin, un jeune homme de 26 ans, qui est préoccupé, au fond, de chevalerie, disons, et qui se retrouve comme ça, précipité dans une histoire qui n'était pas la sienne, la guerre, mais qui se retrouve surtout confronté à quelque chose qui le dépasse infiniment, c'est-à-dire ce qui se passe chez lui, à Varsovie, dans le ghetto. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cet homme se métamorphose immédiatement. Il se laisse emplir par cette parole qui le déborde, cette parole qui le dépasse infiniment, cette parole qu'il ne comprend pas, en fait, qu'il va transmettre. Et ce qu'il y a de très beau, enfin, c'est pour ça que j'avais envie d'écrire un livre sur lui, depuis lui, si je puis dire, c'était que c'était quelqu'un ne cherchait pas ni à comprendre, ni à restreindre le champ de cette parole. Il l'a portée, c'est un porteur de phrases. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est un porteur.
Donc un messager.
Un messager, tout simplement.
Mais les trois formes que vous adoptez pour écrire ce livre, Yann Karski, Yannick Hanel, montrent que c'est extrêmement difficile, voire impossible, d'occuper la place du témoin.
Je pense que c'est une place qui est... Oui, qu'on ne peut pas tenir. La première chose qu'on voit quand on s'intéresse à Yann Karski, dans son passage devant les caméras de Claude Lanzmann, c'est qu'il sort du champ.
Il recule.
Il recule, exactement. Il s'en va. Lanzmann filme la place vide. Et au fond, c'est cette place, à mon avis, qu'occupe Karski et qu'occupe tout témoin. C'est l'impossibilité d'accepter cette place à laquelle on est assigné, on s'assigne soi-même, qui est celle du témoin. C'est une place impossible, au fond.
Dans le livre qui s'intitule, on ne l'a pas dit encore, « Mon témoignage devant le monde », il se définit là plutôt comme un messager.
C'est quelqu'un qui est devenu un témoin grâce à Lanzmann, c'est-à-dire au moment où Claude Lanzmann le retrouve et va passer quelques jours avec lui en Amérique à la fin des années 70, mais avant c'est un messager. Au fond, c'est Claude Lanzmann qui fait de Yann Karski un témoin. Le passage du messager au témoin se fait au moment où Yann Karski essaye de parler, s'arrête, sort du champ de la caméra, revient et parle au présent. Et là, quelqu'un s'invente au sens presque étymologique, il se découvre devant la caméra de Claude Lanzmann. Il y a déjà un passage du témoin. Claude Lanzmann est le témoin du témoin. Et du coup, écrire 30 ans après, ce qui est mon cas, enfin, c'est prendre place, si je puis dire, enfin, dans une transmission immense à travers le temps. Enfin, c'est essayer de rendre hommage du coup, au témoin du témoin. Et en un sens, devenir soi-même.
Il n'est plus seulement un messager.
Il n'est plus seulement un messager, exactement.
Il est un témoin, hein. Ouais. Vous lui faites dire, j'étais la preuve vivante de ce qui s'était passé en Pologne.
Ouais. Encore une fois, je crois qu'historiquement, c'est le premier à dire ce qui se passait dans le ghetto de Varsovie, puisqu'il y entre en août 1942. Donc effectivement... C'est, je crois, ce qui intéressait Claude Lanzmann dans le témoignage de Karski, c'était qu'il était une preuve vivante. Il est devenu lui-même le message, c'est ce que je lui fais dire. Il n'est plus vraiment porteur d'un message, c'est lui le message.
Et dans le troisième chapitre, alors, il accuse tout le monde, et en particulier les alliés, la complicité des alliés.
Oui. Mais c'est vrai que dans la troisième partie, j'en fais une sorte de... Pour lui donner voix, pour donner voix à son silence, j'en fais une sorte de prophète en colère. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il a porté la parole des Juifs du ghetto de Varsovie en Grande-Bretagne et aux États-Unis, puisqu'il a parlé réellement à Roosevelt, c'est quelqu'un qui a buté face à un obstacle, face à une surdité qu'il n'a pas pu ne pas trouver obscène. Et donc, effectivement, dans la troisième partie, je fais parler Karski depuis une colère, je dirais, quasi biblique, en fait.
Une parole brûlante.
Oui, c'est vrai, c'est une parole brûlante, c'est une parole d'accusation, au fond. Il va jusqu'à dire, Yann Karski, dans ce que j'imagine de sa parole, il va jusqu'à dire qu'au fond... Les alliés, la passivité des alliés face à l'extermination des Juifs d'Europe relève de la complicité. Karski est quelqu'un qui a vu, puisqu'il était aux États-Unis de la fin 42, fin début 43 jusqu'à la fin de la guerre, il a vu comment les articles sur la Shoah étaient systématiquement dévalués par la presse américaine et jamais mis en première page. Il a vu comment il a fallu attendre jusqu'en 1944 pour que Roosevelt fasse un discours avertissant Hitler de cesser l'extermination. Il a assisté à l'antisémitisme de l'opinion publique américaine, antisémitisme qui est très fort dans les années 40. Il a vu qu'effectivement, toute la diplomatie américaine tentait d'étouffer l'information.
Vous lui faites dire, en 1944, lorsque je disais dans une petite ville du Texas, devant un parterre de dames de patronage, que les Allemands exterminaient les Juifs d'Europe, c'était juste une parole ridicule.
Oui, parce qu'il est trop tard. Il a le sentiment... C'est un homme qui a essayé de transmettre ce message et parler du matin au soir pendant quasiment 3 ans. Il avait face à lui des intellectuels. Il a parlé à Arthur Koestler, qui est l'un des rares à avoir écrit des articles à cette époque-là, pour alerter le monde. Mais il a parlé, il allait partout parler, au fond. Et il y a un moment où il se rend compte qu'il devient une sorte de témoin professionnel. Et c'est d'une part ridicule parce que, de toute manière, soit on ne l'écoute pas, soit le fait de l'écouter ne change rien. Mais surtout, d'autre part, c'est parce que le temps passe. Et en 1944, des millions de personnes sont mortes déjà. Il a l'impression, Yann Karski, enfin c'est moi qui lui fais endosser cette impression, qu'en le laissant parler, on l'étouffe encore mieux. Qu'au fond, la meilleure manière, de ne pas écouter quelqu'un, c'est de le laisser parler sans cesse. C'est ce qui arrive à un moment à Karski, ça en dit long sur le destin de la parole dans les sociétés occidentales, au fond, à partir de 1945.
Il va faire d'ailleurs la même expérience en dénonçant devant ses étudiants les méfaits du communisme.
C'est quelqu'un, alors là, c'est dans sa biographie américaine, c'est quelqu'un qui, effectivement, en tant que Polonais, qui a vécu dès 1940 sous le double joug nazi et stalinien, c'est quelqu'un qui a échappé à Katyn, puisque c'était un officier, il a réussi à s'évader avant d'être exécuté. C'est quelqu'un qui, effectivement, a un rapport viscéralement, d'une violence viscérale contre les soviétiques et contre le communisme. C'est quelqu'un qui va effectivement, dans la deuxième partie du XXe siècle, témoigner contre le communisme, sans jamais se laisser instrumentaliser par le macartisme. Ça, c'est tout à son honneur.
Alors donc, cette troisième partie fictionnelle de Yann Karski, Yannick Hanel, l'un de ses thèmes, c'est en effet la complicité des Occidentaux, disons, et des Américains en particulier, mais aussi, c'est un grand plaidoyer en faveur de la Pologne.
Oui, mais c'est vrai que sur la Pologne, on a une série de poncifs, d'idées reçues, dont l'antisémitisme. Et il se trouve qu'effectivement, la Pologne a un gros problème avec l'antisémitisme, aujourd'hui encore. Mais il se trouve que Yann Karski est un personnage singulier qui est à travers lui une autre Pologne, une Pologne juste, se manifeste. Moi, j'ai découvert en travaillant sur Yann Karski et sur sa vie qu'à Yad Vashem, au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, le plus grand nombre de justes parmi les nations, c'est-à-dire de gens qui ont sauvé des juifs, puisque Yann Karski est un juste parmi les nations, le plus grand nombre sont des Polonais. Et de fait, la question que je me suis posée, c'était qu'est-ce que c'est qu'être un Polonais en 1940, au fond? C'est être pris dans un verrouillage entre deux infamies politiques démoniaques. C'est être seul au monde. Et c'est effectivement Yann Karski, à un moment, quand il prend conscience de ce qui arrive aux Juifs, pas seulement aux Juifs polonais, mais aux Juifs d'Europe, doit sans doute considérer que leur isolement, l'isolement monstrueux dont ils sont l'objet, résonne avec le sien. Alors, c'est incomparable, mais je pense que toute la sympathie immédiate que Karski a, lui, encore une fois, le catholique patriote plein de préjugés, la sympathie immédiate qu'il a pour les Juifs d'Europe peut s'expliquer par ce sentiment d'être minoritaire. Pour moi, la figure du Polonais, en tant que figure, je dirais, presque deleuzienne, au fond, en tant que figure de pensée, je me suis dit que c'était la minorité. Être polonais en 1940, c'est être minoritaire.
Une minorité résistante, hein, parce que rappelons tout de même qu'il n'y a pas eu de gouvernement de collaboration avec les Allemands.
Contrairement à la France et à d'autres
Pologne.
Pays.
La Pologne a basculé tout de suite dans la résistance.
Dans la résistance, moi j'ai découvert effectivement que Karski, puisqu'il est l'un des résistants de l'armée intérieure, comme on dit, Karski témoigne pour une organisation extraordinaire. Enfin, le livre qu'il a écrit en 1944, qui est aussi un peu un livre de propagande, mais ce livre qui a essayé de faire basculer les alliés en faveur des Juifs d'Europe, je me suis rendu compte qu'il fait un portrait de la résistance polonaise qui est absolument étonnante, enfin sans moyens, très vite, en Pologne, puisqu'il n'y a pas de gouvernement de collaboration, effectivement, comme vous l'avez dit. En Pologne, des gens s'organisent. Et c'est une résistance qui a été laminée lors de l'insurrection de Varsovie en 1944, mais c'est une résistance tout à fait héroïque.
Ouais. La Pologne dit à Karski, son éditeur, c'est le pays des morts. Et il lui conseille d'ajouter une histoire d'amour pour faire un peu moins sinistre. Il ne l'a pas fait, mais vous, Yannick Hanel, vous le faites.
Ah, je le fais, j'espère, de manière pudique, enfin, il y a, de manière très estompée. Il se trouve que j'ai enlevé énormément de scènes sur l'amour réel que Jan Karski avait pour une Polonaise, une juive polonaise qui s'appelle Paula Nirenska. Il reste vraiment en filigrane, je suis content que vous l'ayez remarqué, parce qu'on me dit souvent, mais il y a pas tu ne parles pas d'amour dans le livre, ici, il y a trois phrases ou quatre. C'est une danseuse, là, je n'ai rien inventé. C'est une danseuse polonaise.
Plus aimé qu'une danseuse.
Il me semble. Mais, ou alors, la femme qu'on aime ou les femmes qu'on aime sont des danseuses. Mais en l'occurrence, effectivement, c'est une danseuse qu'il a rencontrée à New York. Et cette femme, toute sa famille a été exterminée. Donc, à travers elle, il dit que, il le dit, hein, réellement, à travers elle, il, non seulement il se rapproche des Juifs qu'il n'a pas pu sauver, mais il devient, en un sens, juif.
Karski est mort en Amérique, il n'y a pas très longtemps, en 2000, à Washington, je crois. Il est allé vivre là parce qu'il n'avait plus de pays. Ou alors, si pays il avait encore, c'était une peinture de Rembrandt, qui est conservée à New York.
Oui, à la Frick Collection. Le cavalier polonais, oui. C'est vrai que je me suis demandé, dans l'exil de Karski, quel pouvait bien être ce qu'il appelle toute sa vie son pays, puisque c'était un patriote au début. Il ne rentre pas en Europe pendant la guerre parce qu'évidemment il est grillé en tant que résistant. Il a été torturé par la Gestapo, il s'est évadé. Et à la fin, dans la deuxième partie de sa vie, j'imagine sa rencontre à la Frick Collection à New York avec ce tableau. Quand j'ai commencé à travailler sur Karski, j'ai pensé immédiatement à ce tableau de Rembrandt, qui est très mystérieux et qui dit tout du caractère chevaleresque d'une aristocratie défunte, un peu utopique, presque d'un autre âge au fond, qui concerne les Polonais. Le cavalier polonais, en un sens, c'était lui, c'était Jan Karski. Donc je ne me suis plus à imaginer qu'il allait chaque jour contempler ce tableau, penser à la Pologne qu'il avait perdue et se mettre à penser. Je me suis dit que ce tableau le faisait penser et que ça fait partie, avec peut-être la lecture de Kafka, des choses qui lui ont permis de sortir de cette dépression, comme on dirait aujourd'hui, que forcément il a eue à partir de 1945.
Jan Karski, le livre de Yannick Hanel, est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.